Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, 13h-14h, Jacques Pessis.
Dominique Loiseau, la femme de Bernard Loiseau, a relevé un défi, sauver l'entreprise familiale après le suicide de son mari. 18 ans de combat qu'elle raconte dans un livre. Son premier métier, journaliste, dans l'univers de l'hôtellerie. Sa rencontre extraordinaire, Johnny, un soir de tournée. Des souvenirs parmi beaucoup d'autres que vous allez découvrir tout de suite dans ces clés d'une vie.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Dominique Loiseau.
Bonjour Jacques.
La revanche d'une femme, c'est un livre paru chez Michel Lafon où vous racontez votre parcours. Et bien votre parcours, ça tombe bien, on va l'évoquer dans ces clés d'une vie, comme d'habitude, à partir de dates clés, si vous en êtes d'accord, bien sûr.
Oui, bien sûr.
La première date que j'ai trouvée, oh, ça vous dira quelque chose, c'est le 26 septembre 1980. C'est la sortie de votre premier livre, qui s'appelle « Hygiène et restauration ».
Oui, exactement. C'était un livre que j'ai fait pour la profession, parce que venait de sortir une législation fleuve pour la profession de la restauration. Et il y a eu un tollé dans la profession. Bon, moi, j'enseignais les règles d'hygiène. Comme j'enseignais les règles d'hygiène, moi, je comprenais cette législation. Et donc, j'ai fait un livre pour expliquer aux professionnels de la restauration pourquoi chaque article qui, concernant les chambres froides, concernant les mains, concernant beaucoup de choses, et aussi pour les écoles hôtelières. J'ai suivi aussi le programme des écoles hôtelières en matière d'hygiène et les nouvelles réglementations.
Oui, parce que ça paraît banal aujourd'hui, mais c'est pas si lointain que ça. On a totalement changé les règles d'hygiène pour la restauration et pour la vie.
Bah, disons qu'il n'y avait rien avant. Il n'y avait aucune réglementation. Et là, on a fait une réglementation fleuve qui a été calquée sur les industries agroalimentaires et donc qui était vraiment assez poussé, même à la limite trop poussé pour un restaurateur lambda. Il fallait un plafond de 2m10, 2m50, et s'il était à 2 mètres, il fallait fermer, voyez. Ouais. Donc, en fait, cette législation avait été faite pour les architectes qui construisaient de nouveaux restaurants, pour que dès le départ, la marche en avant, le circuit des produits propres, des produits sales, soit bien agencé, pour ensuite avoir un travail beaucoup plus rationnel.
Oui, et on commence d'ailleurs à l'époque à parler d'intoxication alimentaire. Mm-hmm. C'est un phénomène nouveau aussi, Dominique Loiseau.
Oui, on en parlait un peu plus, mais ça avait toujours existé, mais on se dit, bon, ben, les gens sont tombés malades parce qu'ils ont mangé un truc pas frais, ou parce que c'est normal, c'est une crème anglaise, on tombe malade, ou un pâté, vous voyez. Mais là, c'est devenu, on faisait des prélèvements microbiologiques sur les aliments, sur les malades, et c'est devenu quelque chose de bien connu et de mieux maîtrisé.
Voilà, parce qu'effectivement, il y avait la société industrielle qui se développait, il fallait agir, et on parlait aussi de la diététique, avec un concept de nourriture équilibrée qui évoluait au fil
oui,
des années.
Oui, ben, dont on ne parlait pas avant, hein, du moins chez les restaurateurs. Hein, on en parlait dans le domaine médical. Là, il y avait des bouquins, mais il n'y avait aucun livre pour le domaine de la restauration. Donc, je l'ai écrit également, hein, ce livre de diététique, et j'ai passé un CAP de cuisine pour vraiment avoir le jargon et pour leur donner de bons exemples chaque fois, pour étayer toutes ces règles d'hygiène des mains, l'hygiène des chambres froides, l'hygiène des produits carnés, des produits laitiers, les fruits et légumes, enfin, il y a toute une législation qui est tout à fait justifiée et qui est maintenant, regardez, on ne parle pratiquement plus d'intoxication alimentaire.
Exactement, et ce livre d'ailleurs, Dominique Loiseau, est toujours d'actualité, il est
oui.
devenu une référence.
Oui, oui.
Alors, ce phénomène est très loin de vos jeunes années, en Alsace, où on ne parlait pas du tout de ce genre de choses. Vous avez grandi dans une famille où même le pain, on le faisait directement.
Ah ben, ma grand-mère, mes grands-parents n'ont jamais acheté de pâtes, jamais acheté de pain. Ils n'achetaient pas grand-chose, quoi. C'était carrément autodépendant, quoi.
Voilà.
Il y avait la ferme.
Et on se débrouillait, et ça se passait très bien comme ça.
Oui.
C'était à Rosenwiller, en alsacien allemand, Rosenwiller, ça veut dire le hameau du le village des roses.
Oui, c'est Rosenwiller-Dettwiller, parce qu'il y a un autre Rosenwiller dans le Haut-Rhin, et ça a été peuplé autrefois par les comtes de Rosen qui sont venus de Suisse.
Voilà. Alors, votre père travaille à l'usine, et votre mère est déjà cuisinière, elle est attitrée des baptêmes et communions, Dominique Loiseau.
Oui.
C'est une très bonne cuisinière qu'on appelle à chaque fois ?
Oui, 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 parce qu'elle avait été à Neuilly, donc elle était la parisienne, entre guillemets.
Oui.
Donc elle savait cuisiner.
Et quand on est à Neuilly, quand on se retrouve en Alsace, on n'est pas bien vu, théoriquement. C'est un village très fermé.
Oui, non, mais comme elle était justement, on venait la voir quand un enfant était, quand on avait son enfant malade, on demandait à Marthe Brunet. Dès qu'il y avait le moindre truc, elle avait travaillé chez le général Chevrens-Bertin à Neuilly. Rue du commandant Pilot. Donc, elle rencontrait énormément de personnalités, et puis, elle avait été en face de personnes qui avaient des spécialistes auprès d'eux. Donc, elle a appris beaucoup dans cette famille.
Alors, vous avez donc grandi là-dedans, au milieu des vignes, et déjà, vous avez appris le jardinage, les noms des plantes. C'était déjà un atout, et c'était un atout de
oui,
petite fille.
Oui, j'avais les mains dans la terre, et notamment, nous faisions, nous cultivions tout, hein, les pommes de terre, les betteraves, le houblon et le tabac. J'ai fait le houblon et le tabac en étant petite.
Et c'est un atout fabuleux pour apprendre la vie.
Ah oui,
on ne peut plus imaginer ça aujourd'hui.
Oui, oui. Et puis, n'oubliez pas, hein, Jacques, tout l'été, on entendait les cigognes. Hein. Il y avait le nid cigogne qui est à deux maisons de chez ma mère. Et c'était toujours, même encore maintenant quand j'y vais, tout est un peu autour des cigognes.
Ça vous fascinait, les cigognes, les oiseaux, pourquoi ?
Toujours. Mais c'est un bel oiseau qui est, quand il est debout, il se met sur une patte, il ne bouge plus, après il trafique un peu son nid, enfin, et ça vole, quand ça vole, c'est tellement beau, ça vole doucement. Enfin, moi je ne peux pas, je vais régulièrement chez ma mère, surtout pour voir les cigognes.
Oui, vol des cigognes qui a changé, parce qu'il fut un temps où les 35 000 cigognes du pays allaient en Afrique. Maintenant, elles s'arrêtent en Espagne. Elles ne vont pas plus loin, en général.
Oui, oui, mais il y en a de plus. Elles reviennent à nouveau. Disons qu'elles ont été un peu protégées et un peu acclimatées.
Et puis, vous avez découvert une boisson qu'on appelle le schnapps.
Ah oui, ben, je l'ai découvert toute petite. Je veux dire, mon grand-père le faisait lui-même, son schnapps. Hein. C'est une eau de vie de quetch. Et c'est vrai que on soignait les maux de dents avec ça, et puis c'était fréquent qu'on prenne un peu de pain de mie, de pain de miche, hein, d'une miche de pain, on fait une tranche et on imbibe ça de schnapps. Voilà. Et moi, toute petite, je goûtais ça puisque c'était pas fort. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer les eaux de vie,
voilà,
de fruits.
Et il faut savoir que le schnapps en Amérique du Nord a évolué. On fait des schnapps de pêche, de caramel maintenant.
Ah oui, mais ça c'est... Non, ça ne m'intéresse pas.
On est bien d'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous parliez alsacien dans la famille.
Oui.
Et français à l'école.
Oui, à la maison, mon père était francophone, mais chez mes oncles qui étaient à côté, il y avait des tablés de 12, puisque c'était une grande ferme avec beaucoup d'oncles et de tantes, je parlais le dialecte en permanence.
Et puis ce village est devenu la capitale de la chaussure, parce que je crois que Adidas s'est installé là-bas,
oui,
ça a changé totalement le village.
À Detwiller, il y avait Sioux, il y avait Adidas, il y a Heshung aussi maintenant. Ah oui, c'était vraiment toute la population se promener en chaussures de sport et en jogging.
Mais comment ces usines étaient arrivées là? En plus, c'était très bien pour la population, parce qu'il y avait du travail pour tout le monde.
Absolument. Et c'était vraiment une spécialisation. C'était des Allemands qui avaient choisi l'endroit, et tout le monde travaillait dans la chaussure.
Et je crois que le soir, votre famille faisait la couture des plateaux, des mocassins.
Oui, en plus, oui. Pour gagner encore un peu d'argent, pour arrondir les fins de mois, et il fallait tirer très fort, et on mettait un petit bout de cuir, d'ailleurs, sous le petit doigt pour aider et protéger le doigt.
C'était pas fait à l'usine, ça ?
Non, ça c'est fait à la main.
Oui.
C'est fait à la main.
Et puis, vous avez fait vos études à Fenétrange, au Collège Notre-Dame de la Divine Providence, et Fenétrange, il faut savoir que la famille de Marcel Dassault est originaire de ce village.
Oui, 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 je le sais, absolument. Mais il ne s'appelait pas Dassault à ce moment-là.
Non, il s'appelait Bloch.
Bloch, voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous passionne à l'époque, Dominique Loiseau? C'est la biochimie.
Disons qu'en troisième, il a fallu s'orienter. J'ai une fille dans mon village qui faisait un bac de technologie en biologie, et elle m'en a parlé, et je me suis dit, ça me plairait, et je suis allée à Strasbourg, au lycée technique boulevard de la Victoire, et j'ai fait un bac F7, qui était le bac technique biochimie. Ouais. Et après j'ai fait le BTS, biochimie, et après j'ai fait la licence et la maîtrise de biochimie.
Et c'est quelque chose aussi qui a beaucoup évolué, la biochimie.
Oui, absolument. Et je me rends même compte, même la virologie que j'avais faite, par exemple la pandémie que nous vivons, moi, je n'ai jamais entendu durant mes études qu'une pandémie pouvait être en Europe, au cœur de l'Europe.
Jamais.
Les pandémies, elles étaient aux Philippines, elles étaient loin, mais pas comme ça.
Et alors, il y a aussi quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un qu'on connaît bien, qui est l'idole éternelle.
Oh, ma jolie Sarah.
Alors cette chanson, elle date justement de l'époque où vous l'avez rencontré. Il prépare un show sur le thème de la pollution, Johnny Hallyday, et vous allez lui servir son whisky, Dominique Loiseau.
Oui, bah disons que il donnait des spectacles sur la Côte d'Azur, et mon amie Claude Gousset, ma copine, avait un fiancé qui était dans l'orchestre, qui était en première partie de Johnny. Donc nous avions droit d'être dans toutes les coulisses, quoi. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Et Johnny était vraiment déchaîné, c'était un showman incroyable.
Oui, c'était un showman et il arrivait déjà un peu fatigué, enfin gai, dirais-je. Oui. Et puis après, entre chaque chanson, c'est moi qui lui portais son verre de whisky.
Qu'il avalait pour chanter.
Oui, et j'étais très fière.
Vous avez vécu aussi une soirée surréaliste avec Johnny et son copain de l'époque qui était Michel Sardou.
Oui, aussi, oui, ça avait duré toute la nuit là.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, ils ont chanté, bu, tous les gens des orchestres respectifs étaient là, ça chantait, enfin c'était... C'est pour moi qui suis très curieuse, c'était la découverte d'un monde que je ne connaissais pas.
Oui, je crois que ça se passait chez Gu, qui était à l'époque un restaurant où toutes les stars passaient, quoi qu'il arrive, quand on allait en tournée, et ça se terminait effectivement à l'aube, oui. Et on chantait, on mangeait, et on buvait beaucoup.
Oui, mais c'est tout ça, je vous dis, ce sont des expériences, moi, qui m'intéressaient, de connaître tous ces mondes qui n'étaient pas le mien, en plus, moi, partie d'un milieu très ouvrier, tout ça m'éblouissait un peu, j'avais envie de connaître, et ça me plaît.
Voilà. Et vous entrez dans l'enseignement à ce moment-là, vous êtes professeur de mathématiques et de sciences appliquées à l'alimentation.
Oui, pas de mathématiques, de sciences appliquées à l'alimentation, de microbiologie.
Oui, et ça c'est un enseignement nouveau à l'époque aussi.
Oui, d'ailleurs je dois vous avouer que j'ai fait les programmes pour les écoles hôtelières, parce que le programme de sciences appliquées pour les écoles hôtelières, il fallait étudier la mitochondrie, enfin des choses compliquées qui ne servaient rien à des élèves d'école hôtelière. Et comme la législation d'hygiène venait de sortir, j'ai rajouté toutes les règles d'hygiène, plus tout un programme de microbiologie, puisque les intoxications, c'est les microbes. Et donc, c'était pratiquement le programme que moi j'avais étudié en biochimie microbio. C'est moi qui l'avais créé, ce programme, et les élèves l'utilisent toujours, et c'est devenu la référence dans l'éducation nationale en matière en hôtellerie.
Eh bien écoutez, vous avez complètement changé ensuite, on en parle avec une autre date, le 19 mai 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Loiseau.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Loiseau. La revanche d'une femme chez Michel Lafon, on va en parler tout à l'heure. Mais elle est liée à une date quand même, le 19 mai 1989. Ça vous dit quelque chose, non?
C'est mon mariage.
Voilà, un mariage avec celui dont on va entendre la voix.
Quand j'étais gamin, j'étais vraiment un gamin insupportable, quoi. Je tenais pas en place, il fallait me surveiller comme le lait sur le feu.
Voilà. Mes parents avaient donc Bernard Loiseau, un mariage civil, mais vraiment intime, avec un déjeuner chez l'ami intime qui était Guy Savoie.
Oui, nous avons fait ce mariage dans l'intimité et on a fait le mariage religieux après avec la famille.
Voilà. Et Guy Savoie a été en apprentissage avec Bernard Loiseau chez Trois Gros. Ils sont restés les meilleurs amis du monde. Et d'ailleurs, c'est grâce à Bernard Loiseau que Guy Savoie a osé diriger un premier restaurant.
Oui.
Qui était la barrière de Clichy. Alors, votre première rencontre avec Bernard Loiseau, vous êtes à l'époque journaliste, parce que vous avez été journaliste dans un journal qui s'appelle L'Hôtellerie.
Oui, qui est le journal de la profession. Et donc, j'étais dans ce journal, mais je m'occupais de tout ce qui était alimentaire. Alimentaire, mais aussi donc l'hygiène et toutes ces règles-là.
Voilà, et vous étiez rentré au départ parce que vous avez fait un livre, et puis finalement, vous avez passé 7 ans dans...
Oui, parce que quand j'ai sorti le livre « Hygiène et restauration », le journal m'a demandé plein de piges, parce que le texte de loi, l'arrêté ministériel étant sorti, le journal professionnel avait besoin d'en parler. Surtout que la profession était un peu paniquée par toutes ces règles d'hygiène. Et donc, mon rôle, c'était vraiment de tout bien expliquer à leur niveau, les gestes, mais avec des mots très simples.
Oui, parce qu'on connaît mal ces journaux professionnels, mais c'est vrai qu'il y a plein de journaux comme ça qui sont réservés à une élite et qui marchent très bien.
Oui, c'est un journal professionnel. Donc, on y traite les problèmes de réglementation, les problèmes de gestion, les problèmes d'hygiène. Enfin, un métier, quelqu'un, parce que c'est quand même un métier dans lequel certains se lancent sans avoir eu fait l'école hôtelière, par exemple. Hein. Donc, c'est important de tout bien réglementer, et bien réglementer aussi, hein, parce que notre santé est en jeu en tant que client.
On est d'accord. Alors, donc, Dominique Loiseau, un jour, ce journal vous envoie au trophée, à Vichy, au trophée des sources.
Oui.
Et là, il y a un membre du jury qui vous regarde.
Oui, surtout que je voulais absolument pas y aller. J'ai tout fait pour ne pas y aller, et mon rédacteur en chef m'a obligé d'y aller. Oui. Donc, j'y suis allée à contre-cœur. Et durant le dîner de gala, donc il y a eu le concours culinaire avec des jeunes cuisiniers, et ensuite il y a eu le dîner de gala. Et durant ce dîner de gala, à trois tables de moi, il y avait un monsieur qui m'a maté toute la soirée. Alors j'étais très mal à l'aise parce que j'ai cru que c'était Alain Chapelle,
parce qu'il lui
ressemblait tellement. Et puis, le lendemain, j'ai voulu lui dire que s'il se trompait de personne, et bien, il était déjà rentré à Saulieu à 6 heures du matin.
Et c'était Bernard Loiseau.
On me l'a dit.
Et vous l'avez revu.
15 jours après.
Et il avait à l'époque un gros problème de divorce. Sa femme était partie avec un maître d'hôtel. Mmh. Et ça l'avait traumatisé parce qu'il se sentait trahi.
Oui, il n'était pas très bien. Il était malheureux. Mais il s'est quand même intéressé à moi, voyez-vous.
Oui.
Donc, j'ai essayé de le soutenir comme j'ai pu. Et puis, j'ai progressivement un peu intégré la maison, les week-ends notamment, pour l'aider dans sa déco, l'aider dans tout ce qui était rédigé pour l'hôtel-restaurant. Je relisais, je corrigeais. Enfin bon, j'ai commencé à me rendre un peu utile.
Voilà. Ce qui était étonnant avec Bernard Loiseau, c'est que il travaillait le soir à Saulieu. Il venait à Paris vous rejoindre et il repartait le lendemain matin à l'aube.
Oui. Tellement il pleurait. Il était malheureux. Il voulait plus dormir chez lui. Et c'était très touchant. Hein. C'était de voir un homme pleurer. Moi, je n'avais jamais vu ça.
Et surtout en secret, parce qu'il n'en parlait à personne devant les clients, il était souriant.
Mais bien sûr, il était euphorique.
Alors, il est né à Chamalières, Bernard Loiseau, comme Daniel Gilbert, comme Michel Charras, et Pierre Schandorfer, qui est le metteur en scène, qui a eu un Oscar du documentaire pour la section Anderson, ils sont aussi de Chamalières. Mmh. Et puis, je crois que ses parents tenaient une charcuterie, sa mère tenait une charcuterie, et ça lui a permis d'apprendre les bases de la cuisine.
Oui, de la cuisine, du bien manger, et puis en plus, elle cuisinait très bien sa maman, à la maison. Donc, il a toujours été habitué aux bons produits et elle faisait tout elle-même. Hein. À ce moment-là, on n'achetait pas les produits faits.
De même, le marché, le samedi et le dimanche avec son père, c'était une tradition, là aussi.
Oui, et puis il faisait même de la cueillette. Ils allaient se promener, cueillir toutes sortes de choses dans les monts d'Auvergne.
C'est ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui.
Ah, il me dit qu'il devait crapahuter. Hein.
Oui.
Parfois, il râlait un peu, Bernard.
Oui, mais en même temps, c'est un privilège qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Il y en a de moins en moins des marchés de ce genre.
Oui, bien sûr.
Et il apprenait aussi à pêcher les écrevisses.
Ah oui, ça, il savait très bien pêcher les écrevisses. Il l'a appris à notre fils Bastien. Et puis maintenant, il n'y en a pratiquement plus.
Alors, en observant la cuisine de sa mère, il a inventé aussi quelque chose. C'est la cuisine sans crème, Bernard Loiseau, car ça vient de sa mère, l'idée, au départ.
Oui, parce que sa mère, quand elle faisait revenir une viande, ensuite, quand c'était un peu caramélisé au fond de la casserole, elle mettait un peu d'eau. Et donc, ça donnait un jus qui avait ce goût de viande. Et Bernard a refait la même chose, parce qu'il trouvait ça... Il voulait pas de crème dans sa cuisine. Toutes les recettes étaient crémées. Et au dernier moment, je sais, j'ai passé le CAP de cuisine, il faut encore rajouter du beurre fondu pour faire briller le plat, voyez-vous. D'ailleurs, moi, pour mes règles de nutrition, c'était un peu... C'était dur d'apprendre certaines recettes.
Et même pour la santé, trop de crème, on sait que...
Et puis de beurre aussi, toujours glacé au beurre. Donc, il a remis tout cela en question. Et quand il a enlevé tout ce gras et toute cette crème, il a redécouvert le goût du produit. Parce que tout était adouci par la crème. Donc là, il a retrouvé une cuisine épurée. Et ça l'a tellement convaincu qu'il s'est vraiment spécialisé dans ce domaine-là.
Et il a ouvert une voie dans laquelle tout le monde s'est engouffré aujourd'hui.
Oui. Au début, on se moquait de lui. Hein. On disait de la cuisine sans crème, c'est pas de la cuisine française. Sauf que maintenant, tout le monde fait pareil.
Alors, il se trouve aussi qu'il a une formule fabuleuse. Il dit « J'ai eu deux bacs, le bac d'eau froide et le bac d'eau chaude, car les études, ça s'est arrêté très vite pour Bernard Loiseau. »
Il s'est arrêté en troisième. Mais c'est aussi une phrase qu'utilise Paul Bocuse.
Oui. Mais il s'est arrêté en troisième parce qu'il est allé en apprentissage.
Oui.
Ça ne l'intéressait pas.
Il ne supportait pas d'être assis à une table, de rester assis. Ce n'était pas possible.
Et donc, Bernard Loiseau va chez Trois Gros. Trois Gros à Roanne, qui s'appelait au départ l'hôtel-restaurant des Platanes et qui est devenu en 1935 l'hôtel moderne avant de devenir celui de la famille.
Voilà.
Et là, il a vu Trois Gros recevoir sa troisième étoile et ça l'a marqué.
Oui, il y a deux choses qui l'ont marqué. L'arrivée de cette troisième étoile et ce que ça signifiait, le nombre de bouteilles de champagne qui sautaient, etc. Et aussi les bons produits. Oh, il était subjugué par la qualité des produits qui arrivaient en cuisine. Et pour moi, il m'a dit que ça a été une révélation.
Parce que c'était vraiment quelque chose de novateur.
Oui, et puis d'une qualité extraordinaire.
Alors, il se retrouve ensuite à Paris, grâce à Claude Verger, à la barrière de Clichy. Et du jour au lendemain, Bernard Loiseau, que personne ne connaissait, Dominique Loiseau, va devenir le cuisinier médiatique.
Oui, il était à Paris. Et Claude Verger, qui n'était pas un cuisinier, avait senti que Bernard avait quelque chose. Et il connaissait les médias, surtout Claude Verger. Donc il a fait venir tous les médias. Et c'est comme ça que Bernard a été connu dès l'âge de 23 ans.
Voilà. Et il s'est senti tout de suite à l'aise avec les médias, ce qui n'est pas courant chez les cuisiniers.
Oui, ben comme il était jeune, peut-être que bon... et puis, il n'y en avait pas tant que ça à ce moment-là. Hein,
non.
C'était quand même il y a un certain nombre d'années. Donc il a été, vraiment, il les a approchés, et puis je crois qu'il a aussi compris qu'il en avait besoin, vous savez.
Oui.
Et d'autant plus que quand il est venu à Saulieu, il fallait qu'il se fasse connaître, parce que Saulieu était une ville un peu oubliée, et pour que les clients qu'il connaissait à Paris, qui allaient sur la Côte d'Azur ou à la neige, quand il passait dans le coin, il voulait absolument qu'il s'arrête. Mais pour qu'il sache qu'il est là, il était obligé de passer par les médias. Il ne pouvait pas payer des pages de pub.
Oui, surtout qu'à l'époque, Claude Verger lui a confié donc, le restaurant de Saulieu en lui disant un jour tu l'achèteras. Mmh. Et finalement, plus personne ne passait par là parce que il fut un temps où on traversait le Morvan en voiture, là il y avait l'autoroute.
Oui, l'autoroute est en temps arrivé, tout le monde voulait l'essayer. Hein. Pourtant, c'est parallèle. Hein. On peut prendre la nationale, c'est pas beaucoup plus long. Mais il y avait cette nouveauté, et là, Bernard me disait qu'il était sur le pas de la porte, en haut de l'escalier d'entrée, et qu'il pleurait, quoi. Parce qu'il n'y avait plus une voiture sur la nationale.
Donc, il fallait faire revenir ce monde-là. Et en plus, il a vécu dans un hôtel de luxe, dans une toute petite chambre, un petit appartement.
Je l'ai connu, hein. J'ai vécu là aussi au début, au-dessus de la Nationale, à l'angle. Il y avait juste une armoire en plastique avec une fermeture éclair, une petite salle de bain sans fenêtre, et puis juste une espèce de salle à manger avec une table, c'est tout. Même pas de cuisine, rien.
Ça n'intéressait pas.
Ben non, mais c'était comme ça, il y avait que ça. Et lui a préféré investir pour les clients, toujours,
voilà.
Toujours.
Et ça a payé, on va en parler avec une autre date, le 26 janvier 1995. A tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Loiseau.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Loiseau. Ce livre, La revanche d'une femme chez Michel Lafon, on en parle tout à l'heure. Mais il y a une revanche aussi, le 26 janvier 1995, une revanche pour Bernard Loiseau. Vous vous souvenez de cette date, Dominique Loiseau ?
Oui, c'est le jour de la remise de sa Légion d'honneur. Ça, c'était quelque chose. À l'Élysée, en plus.
Par François Mitterrand. Et là, c'était vraiment le jour de bonheur. Revanche, presque. La consécration d'une vie de travail.
Oui, voilà. Pour Bernard, qui était toujours un peu complexé par rapport à tous ses collègues, parce que beaucoup de chefs qui étaient ses collègues avaient la maison familiale. Or, Bernard n'avait pas ça. Donc, il a dû acheter les murs, le fonds de commerce. Enfin, il a dû s'endetter. Il a dû se priver. Les premières années, on ne peut pas s'imaginer comme il s'est privé, il a fait de sacrifices.
Mais ouais. Oui, mais parce qu'il ne travaillait pratiquement 20 heures sur 24.
Mais oui, et puis il a fallu s'installer.
Alors, Mitterrand, il venait quelquefois à Saulieu, c'est le Morvan, une région qu'il connaissait bien. Il venait discrètement au restaurant, Dominique Loiseau.
Oui, il venait, comme il venait voir ses amis, ses anciens amis dans le Morvan, il venait avec un certain nombre de ministres, il venait chez nous, bien sûr.
Et un jour, d'ailleurs, Bernard Loiseau lui a fait goûter quelque chose qui est lié à une émission de télévision.
Et voici le bébé de chaudron pour l'énergie, les socialistes.
Ouais, car François Mitterrand, c'était Kermit la grenouille.
Oui, ouais.
Et Bernard fait une gaffe.
Oui, Bernard prend la commande, il dit « Président, vous commencerez bien par des grenouilles. » Et le président lui répond « Oh !» Il le regarde, l'oiseau. « Vous ne manquez pas d'humour !» qu'il lui dit.
Et oui.
Et Bernard, sur le coup, n'a pas tout de suite réalisé, puis après, il a tilté quand même.
Voilà, et ça s'est arrangé.
Oui,
et
bien sûr.
Le bébé de chaud, faut pas l'oublier, bon, c'est Stéphane Collaro et Jean Roucas, mais c'est aussi Jean Amadou qui, tous les jours à 13h, s'enfermait dans un bureau avec les journaux et écrivait en une heure toutes les séquences du bébé de chaud.
Oui.
C'était un monument de la télévision. Alors, il y a eu donc les grands travaux de François Mitterrand, mais il y a eu aussi les grands travaux de Bernard Loiseau, parce que ça a été des années de travail d'Amine Cloiseau pour faire de ce lieu qui était mort une résurrection.
Oui, bah disons que c'est un lieu qui datait des années 50 et même des années 30, et donc à ce moment-là, on voulait voir qui passait dans la rue, du temps des calèches, par exemple. Hein. Il fallait voir qui passait dans la rue, donc les couloirs était au milieu du bâtiment et les chambres des deux côtés. Notamment, il y avait des chambres sur rue qui étaient très prisées. Mais après, c'est devenu l'inverse. Les clients ne voulaient plus être côté rue. Et donc, Bernard n'a pas fait tout de suite de travaux parce qu'il savait qu'il faudrait tout casser pour mettre les couloirs côté rue et les chambres côté jardin. Et donc, nous avons fait effectivement en 95 de très grands travaux.
Et il fallait justement que les gens reviennent, se détournent de l'autoroute pour venir à ce lieu.
Oui, ça 20 minutes.
Oui, mais enfin, il fallait quand même leur dire.
Oui, oui, non, mais Bernard Loiseau, quand on le voyait à la télévision avec ses yeux qui brillaient, avec son grand sourire, c'est un homme charismatique, eh bien, les gens s'arrêtaient, quoi.
Oui, et effectivement, et d'ailleurs, il prenait la voiture le matin pour aller faire une émission de radio. Il faut 2h30 pour faire le voyage, il le faisait en 1h30.
Oui, il le faisait souvent le soir aussi, oui.
Et il n'y avait jamais de problème, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les points du permis.
Oui, quand je pense combien... Il roulait tellement vite, mais il n'y avait pas de limitation.
Donc on pouvait sans problème aller faire une émission de radio et revenir le lendemain matin à la cuisine.
Absolument, mais c'est ce qu'il faisait.
Mais pour tenir le rythme, c'est fou.
Bon, il ne mentait pas tous les soirs non plus, hein, mais il n'arrêtait pas. Je veux dire, il ne se limitait pas, il ne se protégeait pas. Et ça l'a quand même pas mal fatigué, tout ça.
J'imagine. Alors, Bernard Loiseau, il y a une progression. Il reçoit le prix du meilleur petit déjeuner, d'abord.
Mm-hmm. Les Relais Château.
Voilà, la meilleure carte des vins. Mm-hmm. Et puis, la troisième étoile. Ça a été un jour extraordinaire,
oui.
Dominique Loiseau.
Oui, ça a été pour lui le summum, quoi, le couronnement de sa carrière.
Et il l'a appris un matin au téléphone. Comment ça s'est passé?
Oui, absolument. C'est le directeur du Guide Michelin qui l'a appelé pour lui dire. Mais il lui a dit qu'il ne fallait surtout pas l'ébruiter. Parce qu'il a su ça un vendredi. Et le Guide Michelin sortait le lundi. Donc, il ne fallait pas que la presse l'annonce avant.
Et pour tenir sa langue, c'était pas facile.
Oui, mais je crois qu'il y a eu aussi des fuites du côté de Michelin.
Voilà, donc ça s'est su très très vite.
Ça s'est su durant le week-end, c'était quand même le journal du dimanche, l'a annoncé.
Alors, le guide Michelin, au départ, en 1900, c'était un guide qui donnait uniquement tous les renseignements utiles à un chauffeur voyageant en France, pour son automobile, pour se loger, et ça a évolué. Et puisque c'est en 1926 qu'il est devenu le guide des étoiles, pas avant, et avant, c'était offert gracieusement avec l'achat d'un pneumatique.
Oui, parce que les voitures tombaient souvent en panne, oui. Donc le but de ce guide, c'était de donner les adresses des garages les plus proches.
Alors, cette troisième étoile, vous allez la fêter de façon étonnante, puisque vous allez tous en car, toute la maison, chez Bocuse.
On avait deux bus, hein. On est allé chez Paul. Paul nous a invités. Hein. Après, à la fin, il a invité toute l'équipe. Et c'était un repas assez pittoresque, dirais-je.
C'est-à-dire ?
Eh bien, Paul a fait un discours, mais vraiment formidable. Il avait un torchon en main. Il faisait semblant de le lire, voyez-vous, comme ça, là, sans arrêt. Et tout le speech de ce discours était vraiment... Tout le monde riait. Après, Bernard a dû prendre la parole aussi. Et puis, on a mangé les grandes spécialités de Paul. Hein, c'était un moment vraiment très émouvant.
Un moment aussi qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, parce que ce genre de grande fête où on rit, ça n'existe plus beaucoup. Et il y avait en plus des éléphants, les éléphants du serpent d'air.
Ah oui, alors avant d'y aller, quelques jours avant, Paul dit « Ah, de toute façon, tu sais Bernard, hein, tu seras bien accueilli. Hein. Tu sais, j'ai fait venir deux pointures, hein, des personnalités fortes, hein, etc. Des grandes personnalités. » Donc avec Bernard, on s'est dit, ça doit être Raymond Barre, ça doit être... Vous voyez, on a cherché des personnes humaines. Et puis finalement, en arrivant, il y avait deux grands éléphants du cirque Pinder qui étaient là, parce que Paul était en train de tourner une pub avec eux. Et donc, ben, Paul a dû monter sur un éléphant, Bernard sur l'autre. Bernard était vert, il avait peur et tout. Et mais il a fallu faire la photo avec les deux chefs sur leurs éléphants.
On a oublié que le cirque Pinder, à l'époque, c'était aussi le cirque où l'on venait chanter. Luis Mariano, Charles Trenet et beaucoup d'autres ont fait des tournées avec le cirque Pinder pendant l'été. Et ça cartonnait. Il y avait les éléphants en première partie,
oui,
et les chanteurs
et
en seconde partie.
Et les chanteurs après.
Ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Alors, dans la défense de Bernard Loiseau, il y a aussi une chose très importante, ce sont les artisans du Morvan. Car non seulement il a redonné vie à Saulieu, mais il a sauvé aussi des artisans qui étaient qui vivaient dans des conditions très délicates et très difficiles.
Oui, bah disons que quand on fait un très très bon produit, ça demande beaucoup de travail, et c'est un produit qui devient cher. Donc on ne peut pas le vendre dans les circuits normaux, hein. C'est des produits trop précieux. Et pour certains artisans, de travailler pour Bernard, c'était vraiment faire un produit d'exception. Je sais que quand on avait un éleveur de pigeons, il fallait que le pigeon fasse, c'était le rasking, qu'il fasse un kilo pour que ça soit une belle portion pour deux personnes. Vous voyez, on a quand même des critères très précis.
Oui, mais en même temps, à l'époque, il a défendu les artisans, je m'en souviens très bien.
Ah oui, bien sûr.
Et en les défendant, il leur a permis d'entrer dans un circuit. Aujourd'hui, on voit dans des grandes boutiques des produits artisanaux, et Bernard Loiseau en est responsable
bien
en partie.
Bien sûr, parce que quand nous avions des produits d'exception, eh bien, les autres chefs qui venaient faire des repas chez nous, ben, ils voulaient les mêmes produits. Donc, c'est lui qui a vraiment
lancé l'opération.
Je prends le cas de notre confiture faite par un monsieur dans le Morvan, quand Joël Robuchon est venu, ou d'autres, ils ont voulu avoir la même confiture. Donc on l'a retrouvée dans des grands hôtels, les palaces parisiens, etc. Donc il a développé cette famille qui était au fin fond du Morvan. Le monsieur était un peu aveugle d'ailleurs, et ça les a vraiment relancés.
À propos de famille, il y a eu un problème, c'est les enfants. Il en voulait bien, mais à condition qu'ils ne soient pas dérangés pendant le service.
Voilà, c'était le... Oui, quand on a dépassé la trentaine, je me suis dit, ma fille, il ne faut quand même pas oublier cette étape-là. Et donc, il m'a dit, je veux bien, mais il ne faudra jamais me déranger en plein service. J'ai dit, je ne te dérangerai pas en plein service. Sauf que, un jour, j'étais à Chicago pour vendre notre maison auprès des agences de voyage, hein, pour nous faire connaître. Et il était 14 heures là-bas, et Bernard m'appelle, sauf qu'ici c'était 11h du soir, 23h. Et que se passait-il? Eh bien, ma Bérangère venait de faire une appendicite. Et donc Bernard a dû l'emmener à l'hôpital à Dijon, qui est à 80 km. Il n'a rien dit, il l'a fait au mieux, il a été un père parfait.
Mais en même temps, trois enfants d'ailleurs qui portent les mêmes initiales, BL,
oui.
Bérangère,
Bastien... Et Blanche.
Et pourquoi les mêmes initiales, Dominique?
Parce que nous avons un très beau logo LB au restaurant, et que c'est un beau logo, et je trouve que je l'avais déjà mis sur un certain nombre de vêtements ou autres, donc je trouvais que c'est bien que les enfants aient le même logo, quoi. On ne va pas encore refaire un autre logo.
Bien sûr. Alors, il y a eu les vacances aussi. Les vacances, c'est un mot qu'il ne connaissait pas vraiment, Bernard Loiseau.
Non, je n'aimais pas ça. Non, non.
Et comment vous avez fait, vous, pour partir en vacances, Dominique Loiseau?
Eh bien, j'essayais de trouver des excuses.
Ouais.
Je sais que nous sommes allés aux Seychelles parce que Bernard, je me suis débrouillée pour qu'il fasse le repas du président, quand c'était le mariage du fils du président. Donc, ils avaient demandé à ce que ce soit Bernard qui fasse le repas.
Donc là, il a accepté de partir.
Oui, sauf que cette semaine-là, il a su après que le président Mitterrand allait venir chez nous.
Oui.
Et là, il était paniqué. Mais quand il a dit que nous allions faire le repas pour le président des Seychelles, le président Mitterrand dit « Mais allez voir mon ami Albert René, il n'y a pas de souci, allez-y. » Et puis finalement, ça s'est bien passé sans nous.
Voilà. Et puis, il y a cette date tragique du 24 février 2003, où il nous a quittés brutalement. C'est vous qui avez découvert le corps. Et on se pose encore aujourd'hui la question, pourquoi? Mais vous avez, et vous le dites dans ce livre, vous avez senti des signes avant-coureurs, Dominique Loiseau.
Oui, je sentais qu'il était fatigué, comme tous les hivers. Hein. Tous les hivers, nous ne fermions jamais, et il n'y avait pas beaucoup de clients. Et ça, ça le démoralisait. À la limite, c'était une fatigue psychique, plus que physique. Et là, en février, un jour, il a plongé complètement.
Oui, et vous en parlez dans ce livre dont on va parler, nous, dans quelques instants, à travers une autre date, le 3 juin 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Loiseau.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Loiseau. Le 3 juin 2021 est sorti La revanche d'une femme, un document chez Michel Lafon, le témoignage bouleversant de la femme de Bernard Loiseau. Et c'est vrai que ce livre, pour vous, c'est un besoin de l'avoir fait, Dominique Loiseau.
Oui, disons que c'était... nous avions fait une... Il y avait une émission qui était faite sur nous, qui durait 20 minutes, qui était une très très belle émission, qui est passée sur France 2, et qui a beaucoup plu aux Français, qui a vraiment, j'ai eu des retours de, des lettres et autres, et la responsable Katia Chapoutier, qui a fait ce reportage, s'est dit, il faut faire un bouquin de cela, et donc elle a fait le livre.
Alors, La revanche d'une femme, c'est effectivement votre travail, 18 ans de travail. Lorsque Bernard est parti, et moi je viens très bien, et les gens disaient, mais c'est fini, Bernard Loiseau, on n'en parlera plus. Mmh. Et vous êtes arrivé. Mmh. Et personne ne pouvait imaginer que ça marcherait. Ça a marché, et vous l'avez voulu, Dominique Loiseau.
Oui, je l'ai voulu. D'abord, il y avait une très belle maison qu'on a mis 27 ans à construire. Donc... ça vaut le coup quand même de sauver une maison. Je parle, quand je dis la maison, c'est le bâtiment, ouais. Tout ce, c'est un bel endroit. C'est un superbe relais et château. J'avais 60 personnes qui travaillaient là, qu'il fallait renvoyer chez elles. Ben non, on ne peut pas prendre cela comme responsabilité. Il y avait les clients de Bernard qui tenaient à lui. Qu'est-ce qu'ils auraient pensé si d'un seul coup, pas Bernard Loiseau, c'est du vent, il n'y a plus rien. Ce n'est pas possible. Donc je ne pouvais pas imaginer qu'on enlève le nom de Bernard Loiseau sur cette façade. Moi, je n'aurais pas pu survivre à ça. Et donc je me suis dit, bah, on va essayer. Comme ça, je n'aurai pas de regrets. Moi, je suis comme ça. Hein, qui, je suis toujours quelqu'un qui a besoin de sauver une situation, de sauver une, des choses. Enfin bon, je suis comme ça. Hein.
Et donc, vous êtes mis au travail. D'abord, une femme dirigeant ce genre d'établissement, ce n'était pas courant à l'époque.
On était... Non, mais j'étais déjà avec lui durant tant d'années à ses côtés. Je connaissais les équipes me connaissaient. J'avais la... J'étais quand même l'épouse.
Oui.
J'avais la... J'étais crédible.
Oui, mais en même temps, vous avez travaillé dans l'ombre et là, vous passiez en pleine lumière.
Oui, mais que ce soit Bernard ou moi, on faisait les mêmes choses.
Oui, sauf que vous, les médias, ne vous connaissez pas. Oui. Quand il y a eu une photo dans Match avec vos enfants qui a fait beaucoup parler. C'est-à-dire que vous avez eu une de Match avec vos enfants en disant « on continue ».
Oui, oui. Bah, c'est pas les... Vous savez, une maison, elle doit tourner. Donc, si vous vous arrêtez 2-3 semaines, comment vous payez vos employés ? Moi, je savais, dans la nuit qui a suivi le drame, j'ai beaucoup pensé, j'ai réfléchi, etc. J'étais heureusement assez forte encore pour le, hein, pour le faire. Et je me suis dit, il faut continuer tout de suite.
Et vous avez continué avec des équipes que vous avez mises en place. Et surtout avec
elles étaient déjà là.
Oui, elles étaient là. Oui. Il suffisait de leur mettre, de continuer.
Voilà.
Et surtout avec une image différente, parce que Bernard était connu pour sa joie de vivre et même ses pitreries. Je me souviens d'un Vivement Dimanche avec Michel Drucker, mmh. où Michel Drucker lui avait fait goûter du chocolat aux algues.
Oui, 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 entre autres.
Mais en même temps, vous, c'était différent. Il fallait remettre cette maison en marche avec le financement, avec les moyens, avec les banques. C'était pas toujours facile.
Il fallait on n'a jamais eu de problème avec les banques, nous. Hein. Jamais. On a toujours eu une bonne trésorerie. Ça a toujours été une maison parfaitement bien gérée. D'ailleurs, nous sommes cotés en bourse.
Oui. Hein. C'est Bernard qui l'a voulu.
Oui. Oui, oui, c'était parce qu'il avait été sollicité et puis il a joué le jeu. Ça nous a permis de rentrer 40% pour améliorer la maison, pour faire des beaux travaux, pour avoir une beaucoup plus belle maison. Donc ça nous a permis d'évoluer.
Voilà. Et le personnel a suivi. Quelques-uns sont partis, mais la majorité a suivi.
Tout le monde a suivi parce que ce sont des gens qui sont très fidèles et qui ont acheté des maisons, qui sont installés là, les enfants vont à l'école là. Aucun de mes employés n'avait intérêt à ce que je ferme, quoi, je veux dire, ils étaient tous bien là, ils étaient attachés à la maison.
Et ce qu'on ne sait pas, et ce que vous racontez dans ce livre, Dominique Loiseau, c'est qu'il y a un homme, un ami de Bernard et un de vos amis, qui vous a aidé en coulisses à tenir le choc, et oui. qui a été là au quotidien.
Oui, oui, c'est Rémy Robinet-Dufault, qui est le président du groupe NR, c'est un monsieur charmant, qui, un jour, Bernard partait à Paris un soir, à 23h, hein, après le service, et... Rémy lui a dit Bernard, hein, tu roules pas si vite, hein, tu prends ton temps, hein, tu fais attention. Et Bernard lui a répondu, de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, tu seras là. Bernard est décédé Le lendemain matin, Rémy Robinet Dufaux était dans mon bureau. L'après-midi, nous avons travaillé sur les assurances, sur tous les problèmes administratifs qui allaient me tomber dessus. Tout ce... J'étais incapable de traiter tous ces problèmes, moi toute seule, et j'aurais même pas trouvé dans ma région des gens qualifiés pour cela. Donc Rémy venait. Déjà, il était resté plusieurs jours avec les premières assemblées générales, conseils d'administration que nous avons fait et autres. Et ensuite, il est venu durant plus d'un an, tous les samedis après-midi, on travaillait sur un certain nombre de dossiers.
Et c'est comme ça que vous avez réussi à remonter la maison, parce qu'au départ, bon, les clients ne sont pas revenus tout de suite, ils...
Quand même, oui, quand même. Alors, on a eu quand même 40% de clients qui étaient là, au départ. Alors, je n'ai jamais su si c'était pour nous soutenir, ou si c'est des clients qui avaient envie de voir comment était cette maison avant qu'elle ne ferme, mais toujours est-il que nous avions des clients.
Alors, vous avez aussi redéveloppé des choses que Bernard avait lancées, notamment les plats sous vide par des grands chefs. Mmh. Ça, Bernard Loiseau, ça aussi, c'était quelque chose qui était nouveau.
Et oui, c'était un des premiers, oui. Mais nous avons continué avec Patrick. Vous voyez, la
Patrick société... Patrick est son adjoint.
Son bras droit en cuisine. Et la société Agis, qui avait fait les plats cuisinés avec Bernard, a eu la générosité de continuer ses plats avec Patrick.
Il faut savoir que les plats cuisinés, au départ, c'est Georges Pralu, un cuisinier, oui, qui les a créés au milieu des années 70 pour trois gros. Mmh. Et puis, il a découvert que la nourriture cuite de cette façon gardait son aspect original et ne perdait pas ses propriétés alimentaires. Et aujourd'hui, tout le monde le fait.
Au contraire, oui. Vous voyez, Georges, d'ailleurs, je me souviens bien, parce que j'étais journaliste à l'hôtellerie, j'ai écrit sur Georges Pralu, et notamment sur cette technique. Quand vous mettez une pomme dans un sachet enfermé, et que vous mettez un tout petit peu d'épices ou un peu de caramel ou quelque chose comme cela pour la parfumer. Ensuite, vous mettez ça dans un four à température moyenne et cuisson longue. Après, quand vous la sortez, quand vous ouvrez ce sachet, tous les arômes sont concentrés, sont restés dedans. Vous voyez, c'est pas comme dans un four sur une plaque. Et ça, ça a été une révélation. Après, ça a été appliqué à la viande, au poisson, enfin, ça a été... Et seulement après, c'est allé aux États-Unis.
Voilà, et c'était effectivement, les Français ont découvert ça, à l'époque, oui, où personne n'y croyait. Alors, vous parlez d'un livre que vous avez écrit, Bernard en a écrit plusieurs, Bernard Loiseau, mais il n'en a lu qu'un seul, signé par cette comédienne chanteuse.
Elle est jolie, la cicatrice, avec la marque de tes dents, posée sur le haut de ma cuisse, comme à l'arbre on grave un serment.
Annabelle Buffet, femme de Bernard Buffet, qui avait comme amie Juliette Gréco et Françoise Sagan. Elle a écrit des livres, elle chantait, elle a dit « Tant qu'on ne me dit pas que je chante comme Sagan et que j'écris comme Gréco, ça ira. » Et c'est vrai qu'il y a un livre où elle parle de Bernard Loiseau. Il y a un livre qui est sorti et elle l'a dédié à Bernard Loiseau, Annabelle Buffet.
Oui.
Et ça, il l'a lu. Il l'a lu,
c'est le seul livre qu'il a lu. C'était pas un très grand livre, mais quand il l'a reçu, le soir, dans le lit, il a commencé à lire à côté de moi, ce qu'il ne faisait jamais. Alors moi, ça m'agaçait un peu, parce qu'on se parlait pas, il lisait. Alors je lui ai dit, écoute Bernard, t'as qu'à le lire à haute voix, parce qu'en plus, c'était pas un livre très grand. Et il l'a lu en une soirée à haute voix.
Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas le temps de lire et c'était pas son truc. Et en revanche, les voyages, effectivement, il y en a eu très peu. Et c'est après sa disparition que vous avez créé un festival à l'île Maurice avec ses anciens cuisiniers.
Oui, dans le groupe Constance. Oui, le groupe Constance a eu envie de faire quelque chose pour nous. Et j'ai essayé de trouver quelque chose d'original, pas juste faire une semaine gastronomique. Donc là, il y a moitié de cuisiniers des îles du Pacifique, hein,
des îles lointaines.
Voilà,
îles,
voilà, de l'océan Indien, pardon, oui, excusez-moi. Et ensuite, la moitié vient d'Europe, de restaurants 2 étoiles notamment. Et donc, ils forment des binômes, un Européen et un chef des îles, et il y a un concours, et il y a un binôme qui gagne. Et c'est un concours qui est maintenant très connu et ça, il y a une émulation dans tous les pays et pour l'île Maurice aussi, ça fait progresser considérablement la cuisine là-bas.
En revanche, vous avez pris le temps de faire ce livre, La revanche d'une femme, chez Michel Lafond, que je recommande à celles et ceux qui aiment et suivent votre parcours. Merci Dominique Loiseau, et puis continuez à vous battre ainsi pour la France, pour la cuisine et pour l'image de Bernard Loiseau.
C'est très important. Merci beaucoup Jacques.
Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.